Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mercredi 25 janvier 2023. C'est une journée grise dans le Beaujolais et froide également, avec des températures autour de 3-4 degrés cet après-midi environ. Dans notre émission du jour, on va parler alimentation et santé avec notre diététicienne et nutritionniste Charline Simian. On va retrouver le prof Patrick en fin d'émission pour une rubrique politique, économique ou sociale en fonction de son humeur, écologique parfois aussi, mais toujours passionnante. Et avant ça, on va retrouver nos invités du jour. Ils sont passés nous voir la semaine dernière, c'est le groupe Billy King Creek, groupe à 50% caladois, à la musique plutôt folk. Ils ont sorti il y a quelques mois leur second album, The Hours. La bande son parfaite pour un voyage à travers le monde, pour se donner du courage ou pour se reposer tranquillement et apprécier quelques notes de musique. On va parler de ce qu'ils font, de comment ils le font. Mais avant, on va profiter de leur passage à la radio pour les écouter. Ils ont enregistré un titre dans nos studios. Ça s'appelle The Hours, tout simplement, comme l'album. On écoute Billy King Creek. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Ensemble sur Calade.
Allez, on est en studio avec le groupe Billy King Creek qu'on vient d'entendre avec le morceau The Hours. Alors, pas le groupe en entier, on a trois sur quatre. Yann est avec nous ainsi que les deux, Laurent. Donc, on a la guitare, le chant, la basse et la batterie. Il nous manque l'alto.
C'est ça.
Avec Mathieu, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci de vous recevoir.
On va parler donc de votre groupe Billy King Creek et puis de l'album Show Me qui est sorti en septembre dernier.
Ouais, en octobre, oui.
En septembre. On est sur de la musique plutôt folk, c'est un mot qui vous convient?
Ouais, on parle de pop folk parce qu'on a pas mal d'influences, mais c'est vrai que la signature est folk sur tous les morceaux. Ouais.
Ça a commencé comment, Billy King Creek?
Ça a bien commencé.
C'est une bonne réponse.
Et ça fait 9 ans que ça continue. Ça a commencé en 2014. Mathieu à l'alto et moi-même sortions d'un projet d'un groupe de post-rock dans lequel on jouait ensemble. On s'est rencontrés à travers ce groupe et ça a été un peu hors de question de s'arrêter comme ça. On s'est mis en quête d'un guitariste chanteur et on a rencontré Yann par l'intermédiaire d'une petite annonce sur un site genre Zikinf ou quelque chose comme ça. Et puis très vite ça l'a fait parce que Yann rentrait d'un beau road trip et arrivait avec un petit paquet de morceaux sur lesquels on a pu très vite commencer à bosser, composer, puis faire un premier album assez vite derrière un an plus tard.
Ok. Et il manquait.
Et il manquait une basse qui est arrivée six mois plus tard. Raphaël qui est arrivé six mois plus tard.
D'accord.
Laurent ici présent et le troisième bassiste. On change de bassiste tous les trois ans.
D'accord.
Quoi, en tout cas, c'est le bassiste qui part tous les trois ans.
Alors, moi, Yann, j'ai été étonné sur toutes les musiques, on entend une voix éraillée et au quotidien, c'est pas.
Non, c'est vrai que j'ai pas la même voix quand je chante et quand je parle.
Ouais.
Mais j'ai toujours chanté comme ça, c'est la voix qui vient.
Ok.
Donc c'est vrai que c'est souvent la remarque qu'on nous fait que ça surprend un petit peu. Même en concert, c'est souvent les retours qu'on a.
Bah ouais, moi je m'attendais à une voix au quotidien, la voix normale.
Non, ouais.
Bonjour, c'est Yann.
Je parle normalement.
J'imite très mal, je m'excuse.
Moi j'ai reconnu, c'était Yann.
Ah, merci. on voyage avec vos musiques, c'est un peu ce que vous disiez, les chansons que vous avez rapportées de vos.
Bah, surtout avec cet album où il y a pas mal de morceaux qui tournent autour du voyage. Enfin, on a la Finlande, on a le Sahara.
On a la forêt du Bugey.
C'est vrai?
Ouais, on va pas loin forcément pour voyager.
Cet album, il est particulièrement tourné autour du voyage et notamment Show Me, le titre. Qui parle bien de ça. Après, Billy King Creek, de base, le nom vient d'une petite rivière en Nouvelle-Zélande.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça a toujours été basé sur un peu le voyage et l'imaginaire qui est un peu autour de ça.
Moi, ça me faisait penser à un pirate, le nom Billy King Creek.
Après, il y a peut-être le poulpe, le logo poulpe qui ramène bien le pirate.
J'imaginais un capitaine pirate. Suomi, le nom de l'album, ça veut dire la Finlande.
C'est ça.
C'est ça. Ou la langue finnoise, m'a dit Wikipédia.
Exactement, c'est la langue finnoise. Ouais.
C'est les deux, ouais.
C'est présent dans tout l'album. Pourquoi la Finlande?
C'est le morceau Suomi qui. Comment il est arrivé pour s'appeler Suomi? Ça parle un peu de ça, de quelqu'un qui part dans le Grand Nord. Et moi, je revenais d'un voyage en Finlande. Et voilà, Suomi, c'était un nom qui faisait bien penser au voyage, justement. Et donc on s'est dit que sur l'album, ça allait bien.
Oui, puis c'est un morceau, c'est un titre facile à mémoriser. Il est assez significatif, en effet, de ce qu'on a voulu faire ici. Et puis la photo vient de là-bas, la photo de la pochette de l'album.
Ça vient de Finlande, un arbre marqué de peinture bleue.
C'est exactement.
Moi je trouvais que ça marchait bien. C'est un album qui tient chaud. J'ai l'impression que les musiques, on a envie de les écouter au coin du feu. Et la Finlande, je trouvais que ça marchait bien pour évoquer l'album. Que même dans l'ensemble, il y a Suomi qui parle de ça, mais tout l'album, je trouve qu'il est assez chaleureux et que.
Mais ça fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai que c'est un peu l'intention, c'est et de faire voyager et de permettre à quelqu'un qui est posé peut-être au coin du feu d'avoir cette sensation de partir un peu.
Ouais.
Et on l'emmène en effet aux quatre coins du monde à travers quelques morceaux.
C'est un voyage sportif quand même. Il y a des voyages où on s'imagine, on prend la bagnole tranquillement. Là, c'est plutôt sac à dos sur le dos.
Ouais, c'est un road trip à pied. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage, qu'on fait pas forcément ensemble, mais on est plutôt tous très branchés nature.
Ouais. Ça s'entend dans la musique. Comment est-ce que vous travaillez du coup? Comment est-ce que vous allez chercher comment est-ce que vous allez créer ces ambiances?
Alors, à l'image de la rencontre initiale, en fait, où Yann est arrivé avec des morceaux, c'est souvent Yann qui propose des morceaux, guitare-chant, souvent avec une structure déjà bien avancée. Et puis tous à l'inspiration, à l'intuition, on vient poser des choses qui, je pense, font aussi un peu écho à ce que Yann imagine initialement. Et puis, il nous redonne deux, trois grandes lignes pour essayer de se remettre dans l'ambiance qu'il voulait. Et puis, ça se fait assez naturellement. Et assez vite, on a des morceaux vite structurés.
C'est vrai qu'on a vite pris, enfin, on a pris un peu l'habitude de fonctionner comme ça, où moi, j'arrive, je joue quelques trucs, et puis tout le monde se met dessus. Et puis. Le truc se monte comme ça.
Ça se crée.
Et puis ensuite, les paroles qui se construisent souvent après coup, même s'il y a une intention de départ et parfois des mots qui viennent, même dans un anglais un peu yaourt.
Ça commence avec du yaourt.
Et là, on se dit, tiens, ça va peut-être parler de ça, quoi.
Ouais. Est-ce que, moi je me demande souvent, l'ambiance que crée une musique, quand la première fois qu'on entend, ça évoque des choses, etc. Est-ce que quand on écrit la musique, on a déjà l'idée de « j'aimerais bien qu'elle évoque ça » et on va dans cette direction où on crée quelque chose et on voit ce que ça donne ensemble?
La plupart du temps, on va dire que le morceau vient sans... Enfin, c'est plus l'émotion qui dégage que le sens. Ouais. Enfin, pour moi, c'est plus ce qui compte. C'est pour ça que généralement, ça reste yaourt assez longtemps.
D'accord.
Et après, il y a certains morceaux qui ont été faits. Enfin, par exemple, Naïve, je pense que j'avais déjà toutes les paroles, C'était vraiment. Il a été écrit comme ça. Et puis... Mais la plupart du temps, ouais, c'est plus sur l'émotion du morceau. Et puis après, chacun dit ah, moi, ça me fait penser un peu à ça. Et puis, ça en sort. Il y a un thème qui sort.
Et ils évoluent ces morceaux dans le temps. Est-ce que entre la première fois où vous avez pu les jouer sur scène et le moment où ils étaient enregistrés?
Non, généralement, déjà ils arrivent assez structurés. De la part de Yann, donc il y a des petits aménagements, il y a un travail de production autour où on met tous notre main à la pâte. Et puis ensuite, une fois que les morceaux sont écrits, ils sont joués comme ça, il y a une certaine constance et ils sont enregistrés comme ça. La seule différence en enregistrement, et particulièrement ce deuxième album, on a vraiment pris du temps, et puis on était très bien entouré vraiment ce qu'on appelle produire, c'est-à-dire rajouter des choses, des nappes, des voix, des guitares, de la percu.
Ouais.
Et c'est la seule différence, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous écouter sur album et qui va nous découvrir sur scène va retrouver les mêmes structures avec des arrangements en moins, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens sur scène.
Ouais. Je trouvais que sur l'album, vous avez quand même conservé les quatre instruments qui sont devant. Enfin, il n'y a pas, vous n'êtes pas allé chercher un piano ou des choses.
On a quelques, notamment celui qui nous a enregistré, Mathieu Gau, qui a fait un peu d'orgue sur Naïve, qui a fait du tambourin, un autre ami qui a fait de la guitare, qui a rajouté des guitares, du ukulélé.
D'accord.
On a aussi des voix, ouais.
On a deux guests en voix, une chanteuse.
Oui, il y a des voix féminines qui arrivent.
Ouais. Et puis la fille de Mathieu, l'altiste aussi, qui a poussé la chansonnette aussi avec nous.
D'accord.
Donc, on a eu justement, à l'occasion de la sortie de l'album en octobre, on a fait une release party au Craspec à Lyon. Et on a eu l'opportunité de l'accueillir sur scène. Et c'était cool, quoi. On a aussi accueilli sur scène.
Il y avait Pierre
aussi, à la guitare, au ukulélé. Et c'est la première fois qu'on l'a fait. Et c'était chouette. On se rapprochait de ce qu'on avait fait en studio.
C'est l'enregistrement. Alors, j'ai cru comprendre que l'album, il était prêt, grosso modo. Il était dans vos têtes déjà en 2019, qui devait être enregistré en 2020.
Exactement, ouais, il y avait pas mal de boulot. Le premier album étant sorti en 2015, on avait composé, fait tourner ses morceaux. Et en 2019, vient ce projet de dire, bah, tiens, on va faire un deuxième album. On se prépare, on fait des pré-maquettes et... début 2020, il se passe donc ce qui s'est passé. Et le projet n'a pas été avorté. Pour la preuve, on l'a remis à plus tard. Mais voilà, on l'a suspendu. Et le projet de 2020, c'était bien de faire cet album qui, au final, est sorti en 2022. Le temps de s'y remettre, de repartir dans de la pré-prod. Et puis d'organiser, au final, quelque chose qui allait plus loin que ce qu'on aurait fait en 2020.
Ouais, parce qu'en 2020, au début, on avait prévu d'enregistrer juste 5 titres.
C'était un EP.
Ouais. Et puis en fait, avec les années qui sont passées, et puis avec, on s'est quand même pas mal entouré pour au niveau enregistrement. Et c'est vrai qu'on a travaillé plus les morceaux. Et voilà, donc du coup, on a mis les 10 titres. On a monté les 10 titres.
Très bien. Par rapport au premier album, je trouve qu'il est plus folk, ou alors je dirais moins rock peut-être.
C'est vrai qu'il y a un peu moins de rock que sur le premier. Après, il y a quand même certains morceaux. Enfin, il y a un morceau I Don't Care qui est quand même plutôt rock, et puis ça reste un peu dans nos influences quand même à tout le monde, donc il y a toujours un petit côté quand même qui reste.
C'est toujours difficile quand on est dedans. J'ai envie de questionner Laurent en plus là-dessus, parce qu'il nous a rejoint l'an dernier. Nous, on est dedans, on se rend pas compte, on a peut-être pas de prise de recul. Tu trouves comment, toi, entre le premier et...
Alors, effectivement, le premier sonne plus rock.
Ouais.
Le deuxième a vraiment ce côté folk tout de suite, qui dénote tout de suite. Et c'est surtout en fait par la diversité des morceaux. Mm. Parce qu'en fait, il y a vraiment des couleurs différentes en fait, à chaque morceau. On prend Suomi, on prend Naïve, on prend Caledonia, par exemple.
Ouais.
On a vraiment des atmosphères complètement différentes. Et vraiment, le challenge là-dessus, c'est sur scène, c'est d'arriver à tout de suite mettre en place cette atmosphère pour ce côté émotionnel et voyage en fait qu'on va retrouver en fait sur la ligne directrice en fait de l'album.
Voilà. Ça se passe comment un concert justement de Billy King Creek?
Ça se passe bien. Il faut venir nous voir.
J'en profite pour dire qu'on pourra vous voir le 3 février.
Exact.
À Lyon, à l'Antidote.
À l'Antidote, ouais.
Bon, mais vous échappez quand même pas à la question. Ça ressemble à quoi un concert?
Après, ça dépend beaucoup des lieux. Enfin, parce qu'on a justement, on a le côté folk qui fait que dans les petites salles, les petits trucs un peu intimistes, on peut vraiment faire des morceaux.
Se rapprocher de la.
Voilà, se faire des morceaux vraiment plus intimistes. Enfin, faire des morceaux style Star of Stars dans l'album qui est plutôt folk, calme. C'est des morceaux qu'on va pas faire sur des plus grosses scènes avec plus de sons. Où là, on va rester justement un peu plus rock en reprenant des morceaux, pas mal de morceaux du premier album. Pour mettre plus d'énergie. Donc ça dépend vraiment des lieux, on s'adapte un peu.
Ouais, et puis ensuite, ce qui va se passer sur scène, on reste un groupe de folk, donc on n'est pas un groupe démonstratif sur scène. On casse pas des guitares, c'est certain. On est quand même bien porté parce que l'on fait, parfois même dans nos bulles, et on veut vraiment transmettre, c'est la musique, quoi. Les gens n'en viennent pas pour, quoi. En tout cas, on n'attend pas ce qu'ils viennent pour nous en tant que personne, mais pour la musique, et voilà, on vient transmettre une musique, donner une musique et la partager pour que ça réagisse en face et que qu'on emmène dans le voyage, quoi, qu'on vous propose.
Bon, rendez-vous embarquement, je dirais, le 3 février,
ouais, entre autres,
à Lyon, à l'Antidote. S'il y a d'autres dates qui se profilent?
Oui, alors on a d'autres dates qui arrivent, pour l'instant c'est en cours de programmation. On est prévu d'être à la salle du Péniche à Chalon.
D'accord.
On va également jouer au mois de mai pour une association qui s'appelle l'association Mille Vies. Voilà, qui est une association en fait où on a été contacté par la présidente Anne. On a aimé un petit peu l'esprit de l'association qui a pour but en fait d'aider les personnes vivant seules un petit peu à sortir de l'isolement. Et du coup, elle recherchait en fait des artistes. Et donc on s'est proposé. Et elle a fait un petit peu, comme beaucoup, découvert l'album. Elle a vraiment eu un gros coup de cœur. et elle nous a demandé de venir faire une animation pour eux, donc on est très contents de pouvoir arriver. Voilà. Et puis on a été également contactés là pour peut-être participer à des festivals
cet été.
Donc du coup voilà, il y a pas mal de choses qui se profilent. Il faut nous suivre sur les réseaux parce qu'on essaye de tenir tout ça à jour sur les dates qui vont arriver.
Ouais, et puis cet été on avait envie un peu de s'éloigner un petit peu de Lyon, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal tourné autour de Lyon, Villefranche. Du coup, cet été, on va voir, on essaye de planifier ça,
d'aller
de trouver des dates
un peu partout en France.
Ouais. C'est difficile, mais on
essaie. Il faut se lever tôt.
Et ouais, c'est que quand on fait de la musique, on peut pas être juste musicien, il faut aussi être booker, community manager sur les réseaux.
C'est ça.
Ouais. Exactement, beaucoup de relationnels, montrer qu'on existe.
Bah, comment est-ce qu'on peut vous écouter et vous suivre, justement? Il y a donc les réseaux sociaux.
Alors, l'élément un peu central, ça va être le site sur lequel toute la vie et l'actu du groupe se trouve, billykingkick.fr. Ensuite, on a sur les réseaux sociaux Facebook, Insta. On n'est pas des grands community managers non plus. Laurent, en tout cas, s'en occupe plutôt bien. Autant que faire se peut.
L'album, il est sur toutes les plateformes.
On va nous retrouver. On a été distribué sur toutes les plateformes connues en ligne, donc en écoute libre. En tout état de cause, sur YouTube aussi, les meilleurs morceaux ont été mis à disposition.
Ouais, le premier album n'y est plus, mais devrait revenir bientôt.
Et voilà, et l'album est disponible aussi. Il existe quand même en format CD, donc on l'a pressé. Il est disponible en vente en ligne et puis au concert aussi.
Super. Ouais. Uniquement CD, vous avez fait le vinyle. Je sais qu'en ce moment, les groupes, ils aiment bien.
Ça sortait un peu de notre budget.
Ça sortait un peu de notre budget. Et puis l'année dernière, c'est un support qui a pris beaucoup de valeur. D'une, parce qu'il est à nouveau recherché. Et de deux, parce que la matière pour le faire coûte un peu plus cher. Donc,
mais c'est vrai que ça vous est passé par la tête, du coup.
C'est forcément.
C'est vrai que pour l'objet, c'est quelque chose. C'est vrai que maintenant on achète peut-être plus pour l'objet, donc c'est pour ça que ça reprend un peu de valeur, mais
peut-être une réédition.
Pourquoi pas. billykingkick.fr en attendant pour vous retrouver, commander le CD et écouter votre musique.
Tout à fait.
Merci beaucoup à tous les trois. Et donc je rappelle, vous êtes sur scène à l'Antidote à Lyon le 3 février.
Oui, c'est ça. Voilà, pour nous découvrir.
On se quitte avec un autre titre de l'album, on écoute Naïve.
Ok.
À tout bientôt.
Merci.
Merci à toi.
Everything right. You're my whole life, my ecstasies, my perfect wife, heart of my dreams. Sometimes I feel I must be naive. How someone like you can love me, I just can't believe. You're my whole life.
my ecstasies. How someone like you can love me, I just can't believe.
Ensemble sur Calade.
C'est les Billy King Creek qu'on avait aujourd'hui avec nous en interview. On va parler nutrition dans deux minutes. Tout d'abord, on retrouve Volo avec Sans Rire.
On a prévu l'état du trafic sans rire. Pour l'arrivée des courses épiques, je peux lire. Pour tout savoir, le Paris Turf. On a prévu le temps qu'il va faire, sans blague. Et sur les bords de mer, le creux des vagues. Tant que c'est pas moi qui fais du surf. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup ou si ça va de soi. Si ça va de soi, si ça va de soi. Je ne sais pas vous, mais moi, prévois tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup ou si j'ai le choix. À chaque fois. On a prévu un gros tirage d'enfer. Une deuxième chance au grattage et joker. Si j'avais pas toujours perdu. On a prévu des jours fériés, merci. Défilé du 14 juillet aussi. Tant que c'est pas dans ma rue. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup ou si ça va de soi. Si ça va de soi, si ça va de soi. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup ou si j'ai le choix. À chaque fois. Tout un programme, c'est cool. Des émissions en prime time, ça roule. Si je m'achète une télé un jour. On m'a prévu des sponsors partout, trop fort. Des matchs et tout le temps, c'est fou le sport. Tant que c'est pas moi qui cours. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup. Si ça va de soi, si ça va de soi, si ça va de soi. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup ou si j'ai le choix. À chaque fois, je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup ou si ça va de soi. Si ça va de soi, si ça va de soi. Je ne sais pas vous, mais moi.
Alimentation, santé.
Ensemble sur Calade.
Et on va parler d'alimentation et de santé. Pour ça, on retrouve Charline Simian, notre nutritionniste diététicienne. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, aujourd'hui, vous voulez nous parler de vendeurs de miracles. Qu'est-ce que c'est ces vendeurs de miracles?
Oui, parce que je suis très détendue en ce début d'année, surtout avec tous les nouveaux challenges, autant sur la nutrition que sur la dénutrition, ouais. Que sur la détox, que sur le hashtag on va tous perdre nos kilos ensemble. Je suis un peu énervée parce que effectivement c'est un sujet qui touche de très près nombre de patients.
Ouais.
Et que effectivement, ces vendeurs de perte de poids, ça marche. Oui, enfin, ça marche tant que vous le faites. Et en réalité, bah, ça arrête de marcher dès que vous arrêtez de le faire, tout simplement parce qu'on est sur des règles qui sont utopiques, finalement, des choses qui sont tout à fait inapplicables. Alors, il y a des gens qui sont des très bons vendeurs de ça, hein, dont on voit la pub beaucoup à la télé. Et puis ensuite, il y a aussi des gens qui sont moins visibles et qui sont ce genre de vendeurs miracles qui vous vendent des sachets, qui vous vendent des diètes très difficiles à tenir et qui ensuite vous accusent, entre guillemets, de manière un peu cachée, d'avoir raté, quoi. Si vous avez raté, c'est quand même bien votre faute.
C'est une bonne faute, ouais.
Et donc, c'est vraiment sur ça que j'ai un petit coup de gueule aujourd'hui, parce que je trouve qu'en 2023, ce serait bien que ces trucs-là s'arrêtent. Malheureusement, je vois qu'on attaque des influenceurs parce qu'ils ont fait perdre des millions d'euros à des gens et on ne les attaque pas encore parce qu'ils vendent de la dénutrition en poudre à des jeunes filles de plus en plus jeunes et des troubles des conduites alimentaires qui vont se développer suite à ces nombreux régimes. Donc voilà, un peu d'amertume ce matin.
D'accord. Et concrètement, est-ce que vous avez des personnes que vous suivez à votre cabinet qui viennent vous voir et vous disent... pourquoi je ne peux pas essayer ce programme là qu'on me vend sur Internet en me disant que je fais des efforts depuis un an, deux ans. Là, eux, ils me disent qu'en trois semaines, c'est réglé. Vous avez ce genre de cas de figure ?
En général, ce cas de figure-là, j'ai des gens qui viennent, entre guillemets, me tester là-dessus, c'est-à-dire qu'ils me demandent mon avis sur ces programmes-là. Soit avant de les tester, soit parfois après les avoir testés, pas plus tard que dans la semaine, effectivement, j'ai une patiente qui a fait des sachets comme ça et qui ne comprenait pas le mécanisme de reprise de poids. Et du coup, c'est bien parce que ça nous permet, nous, ensuite, de faire du didactique et de l'explication de texte de pourquoi c'est normal que ça n'ait pas fonctionné, en tout cas sur le long terme. Parce que ce qu'on vous vend dans ces trucs-là, c'est la réussite et la réussite rapide. Et on sait qu'on est aujourd'hui dans un monde où la réussite rapide, c'est quand même hyper valorisé. Ouais. Sauf que globalement, la réussite rapide, ça veut dire retour à l'échec derrière si on n'a pas été voir quelqu'un qui vous permet une rééducation. Et je rappelle que les diététiciens font partie de cette catégorie paramédicale de rééducateurs. Et les rééducateurs, ils réapprennent aux gens à manger. Et un programme, si bien monté soit-il, s'il est trop faible en énergie, n'amènera que par réaction des craquages par la suite. C'est obligatoire.
Et là, le mois de janvier, c'est le terreau parfait pour ce genre de programme
Oui, tout à fait, bien sûr. On est sur. Alors, on voit fleurir aussi des galettes light, des choses comme ça, qui sont, on peut dire, moins violentes, mais toujours dans cet esprit de valoriser la perte de poids, la perte de poids rapide. Il faut savoir que ces programmes-là sont dangereux pour certaines catégories de personnes, notamment les gens qui vont être malades, qui vont avoir par exemple un diabète, pour les jeunes filles qui seraient adolescentes et qui ont des besoins XXL, à qui on va proposer des régimes extrêmement drastiques, et puis aussi pour les personnes âgées qui ont un risque de dénutrition majeur avec ces pertes de poids. Il faut savoir que la perte de poids rapide est un indicateur de dénutrition. La dénutrition, c'est quelque chose qui va... amplifier toutes les maladies, je pense aux maladies de l'hiver comme la grippe, donc on résistera moins, et puis qui peut entraîner une difficulté de remise en œuvre si on tombe et qu'on se casse quoi que ce soit.
Bon, Charline, je sens que vous en avez gros sur la patate.
Un peu.
On se donne rendez-vous à 18h30 dans Parlons Nutrition pour en parler un peu plus.
Pour parler de ce type de vente en particulier, pour continuer notre série sur les divers régimes, pourquoi ça ne marche pas et pourquoi j'en ai gros sur la patate, effectivement.
Très bien, donc rendez-vous, c'est à 18h30 sur Calade, Parlons Nutrition. Merci beaucoup Charline, à tout bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Ensemble sur Calade.
On va enchaîner parce qu'on a une autre rubrique qui nous attend pour parler, je ne sais pas, économie, sociale, je ne sais pas ce qu'il nous réserve, c'est le prof Patrick.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessif.
Le prof Patrick.
Et bonjour prof Patrick.
Salut les auditeurs.
De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui avec vous ?
Eh bien, pour mon grand retour au mois de janvier de l'année 2023, tu te doutes bien, Mathieu, qu'il y avait un sujet que je n'allais pas rater quand même, parce qu'il est quand même dans toutes les conversations, c'est la réforme des retraites de M. Macron.
Très bien. Bon, c'est très...
On le fait en deux parties. Hein. En une partie, ça va être un peu court.
Ok. Par quoi on commence ?
Bah, par la première partie. c'est toujours mieux.
J'aurais dû m'en douter.
Bon, il s'agit de repousser l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ce qu'on va faire pour commencer, en fait, c'est qu'on va écouter quelqu'un qui, par avance, puisque c'était en 2019, s'était fortement opposé à l'idée de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Est-ce que tu as notre extrait, Mathieu ?
Oui, bien entendu.
Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi ? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux, il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Et la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite.
Bon, chers auditeurs, vous avez entendu, je pense que vous avez reconnu M. Macron, hein, bien sûr, c'était en 2019. Bon, à l'époque, il voulait vendre sa réforme des retraites par points. Bon, ça lui a pété la figure. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il avait comme argument pour dire non, c'est pas bien, 62-64 ans, oui, le chômage quand même. Hein, tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage, c'est illusoire. Alors, bon, c'est vrai que le chômage est au plus bas, hein, Mathieu, on le sait, 7% en France, c'est pas mal. Ouais. Grâce aux bonnes vieilles méthodes éprouvées qu'on avait analysées dans une chronique du 25 mars 2022. Chers auditeurs, allez dans le podcast, remontez au 25 mars 2022, une chronique consacrée au bilan économique du premier quinquennat Macron. C'est les recettes néolibérales classiques, bon bref, je ne reviens pas dessus. Mais c'est quand même 7%, hein. C'est pas 3 ou 4%. Le plein emploi, c'est l'équivalent de 3%, donc on n'y est pas encore. Et puis côté fatigue de travailler après 60 ans, puisqu'il évoque ça, bon ben, discutez autour de vous les jeunes gens, enfin, chers auditeurs et vous verrez que rien n'est réglé. En fait, les gens qui s'approchent de la soixantaine, cette histoire de fatigue, ils la ressentent en quelque sorte. Bref, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein, c'est comme ça, on va dire ça. Allez, on va commencer à rentrer dans le dur du sujet par un petit rappel historique, c'est pas plus mal. Hein. La retraite à la française, c'est basé sur un système de répartition. En gros, on a le choix entre le, entre guillemets, démerdez-vous par vous-même des anglo-saxons, et ça, on appelle ça la retraite par capitalisation. C'est une solution où chacun épargne pour ses vieux jours, et tant pis pour les bas revenus qui n'ont pas les moyens de cotiser suffisamment pour leurs vieux jours. C'est le modèle américain classique. Ou alors, deuxième choix, on peut choisir un système de solidarité entre les gens qui travaillent, les actifs, et les gens à la retraite. Les actifs payent des cotisations pour permettre de financer les pensions des retraités au même moment, à l'instant T. Et ça, c'est notre système par répartition. Il a démarré donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que l'instauration des sécurités sociales, et la retraite était fixée à l'époque à 65 ans. Elle est passée à 60 ans sous Mitterrand au début des années 80, et puis à partir du début des années 90, eh bien, les décideurs politiques vont commencer à prendre en compte les évolutions démographiques profondes de notre pays. C'est-à-dire qu'on a fini une période où on avait le baby-boom et donc des actifs sur le marché du travail énormes, donc une grande quantité d'actifs pour un nombre plus faible de retraités. Ouais. Et petit à petit, ce rapport va s'inverser et cette tendance continue, hein, perdure encore. Et donc, il s'agit de s'adapter à une situation où il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Il va s'agir donc de modifier notre système de retraite à cette époque-là. La première réforme, ça sera celle d'Édouard Balladur en 1993. La durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein va passer de 37,5 années à 40 années. Et le niveau de la pension de retraite ne sera plus calculé sur les 10 meilleures années, mais les 25 meilleures années. Ça va être les deux éléments clés de la réforme de Balladur en 93. Je saute certaines réformes, hein. Je passe un peu vite. En 2010, l'âge de départ à la retraite passe à 62 ans. Sous Sarkozy. Et en 2014, la réforme Touraine, de Madame Touraine, ministre de je ne sais plus quoi à l'époque, du travail, je présume, sous Flamby, là, comment il s'appelait, François Hollande, voilà. Cette réforme Touraine impose des évolutions suivantes. La durée de cotisation passe de 40 à 41 ans et 6 mois pour les personnes nées entre 55 et 57. Et cette durée va augmenter progressivement pour atteindre 43 ans pour les personnes nées après 1973. C'est cette réforme qui est en vigueur actuellement. Hein, et elle a aussi créé cette réforme, le compte personnel de pénibilité, qui a été modifié sous Macron, qui est censé prendre en compte pour le calcul des droits à la retraite, et bien la réduction de l'espérance de vie qui résulte d'une vie professionnelle un peu exposée à des facteurs de pénibilité. Bon, cet aspect ne fait pas consensus, ça fait l'objet de critiques sérieuses. Je mettrai en lien deux articles qui parlent un peu des critiques de cet aspect-là de la réforme Touraine. Et on en est là à ce jour. Voilà, on est sous ce régime de la réforme Touraine. Donc la question qui vient, c'est évidemment, pourquoi une nouvelle réforme ? Est-ce qu'il y a eu un bouleversement des événements par rapport aux évolutions qu'anticipait la réforme Touraine en 2014 ? Bon, évidemment, il y a eu des événements, hein. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, pourquoi pas. Mais en fait, au niveau de l'impact financier, il y a toujours un impact financier de ce type d'événement avec un effondrement économique. Ce choc, il est déjà quasiment absorbé, donc ce n'est pas ça le problème. La démographie, elle continue d'évoluer comme prévu. Il n'y a pas de changement par rapport aux prévisions sur lesquelles s'était basée la réforme de 2014, donc ce n'est pas ça non plus. Bah, pourtant, les éléments de langage du gouvernement... des Républicains, hein, le parti de droite qui est sur la même ligne, la même pensée que le gouvernement, et des syndicats patronaux, tous, ils nous chantent une mélodie d'un régime de retraite menacé par les déficits. On entend ça, hein, lisez les échos, vous avez ça à toutes les pages. Bon, alors ce qui est bien, Mathieu, c'est qu'en fait, ce débat, il n'est pas aussi confus qu'on pourrait le craindre. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, opposants et partisans de la réforme, ils prennent comme référence... le même organisme et les travaux d'un même organisme. Et cet organisme, c'est le Conseil d'orientation des retraites. C'est un organisme qui a été créé en 2000, qui a 39 membres, des parlementaires, des membres de la société civile, des experts de la question démographique et de la question des retraites, et des représentants des partenaires sociaux. Ce Conseil d'orientation des retraites travaille beaucoup, et chaque année, il sort un rapport. Et donc, ce rapport, c'est vraiment la Bible des opposants comme des partisans de la réforme. Donc, c'est bien. Je vous mettrai en lien la possibilité d'aller le télécharger, ce rapport. Le dernier date de septembre 2022.
D'accord.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le régime devrait connaître une petite pointe de déficit entre 2028 et 2032, tout en ayant l'honnêteté de préciser, j'ouvre les guillemets, il s'agit là d'un artefact lié à la méthode de projection. Rien ne permet d'anticiper que la conjoncture économique sera particulièrement déprimée sur la période 2028-2032. Fermez les guillemets. En gros, bon, il y a une question statistique qui fait que ça crée une pointe de déficit, mais on n'est même pas sûr qu'elle aura lieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après 2032, quelles que soient les hypothèses de croissance moyenne, parce qu'en fait, tout varie selon le taux de croissance moyenne de l'économie française, quelles que soient les hypothèses de la plus optimiste à la plus pessimiste, eh bien, le coût du système des retraites va, au pire, se stabiliser à 14,7% du PIB en 2070, c'est-à-dire quand même un poil au-dessus du niveau d'aujourd'hui, soit décroître pour atteindre, dans l'hypothèse la plus optimiste de taux de croissance, 12,1% du PIB en 2070, c'est-à-dire un peu mieux qu'aujourd'hui. Bon, donc tout ça, avec les effets, bien sûr, grâce aux effets de la réforme Touraine, tout ça, ça nous fait un système extrêmement stabilisé, hein, d'accord ? Donc, réponse aux questions de départ, non, au vu de ces projections, qui sont les éléments sur lesquels tout le monde se réfère, hein. Aucune menace sérieuse, en termes comptables, ne pèse sur notre système de retraite. Voilà. Donc, il va falloir chercher les raisons de cette réforme ailleurs.
C'est pourtant l'un des arguments qui ressort le plus souvent pour cette réforme.
Téléchargez le rapport du COR. Vous n'allez pas lire les 300 pages, hein, mais lisez juste la synthèse qui est au départ et vous verrez que c'est extrêmement clair.
Ouais,
il n'y a pas 36 solutions. C'est assez simple. Pour une fois, on a un problème qui peut être compris par le grand public de façon assez simple. Hein. Il suffit d'aller télécharger ce rapport. Bon, alors, selon toi, c'est quoi la raison, alors, si ce n'est pas une raison comptable de cette réforme?
J'ai entendu dire qu'ils veulent faire comme tous les pays européens.
Bah ouais, on va faire comme les copains. Bon, ok, d'accord.
Je crois que c'est ça.
Encore un élément de langage, ok, pourquoi pas, on verra. Avant de répondre à cette question, en fait, je vais rajouter quelques petits éléments. Chers auditeurs, vous devez savoir que même sans cette réforme, les effets de la réforme précédente, la fameuse réforme Touraine de 2014, vont mécaniquement diminuer le niveau de vie des retraités. Attention, diminuer en valeur relative, hein, pas en valeur absolue, c'est-à-dire par rapport au niveau de vie moyen des Français. C'est dans le rapport du COR, encore une fois, hein, vous l'avez téléchargé, vous allez voir page 8, il y a un joli graphique qui montre ça. Si on met en perspective cette évolution, c'est-à-dire sur le long terme, on est sur un constat un peu étrange, au goût amer, je dirais. C'est-à-dire qu'un des plus importants acquis du système de retraite par répartition français a été de quasiment faire disparaître la pauvreté des seniors. On a eu un niveau de vie moyen des retraités qui, en 1970, était de 70% du niveau de vie moyen des Français et qui a rejoint le niveau de vie moyen des Français en 1990, au milieu des années 90. Ben, en fait, ce qui va se passer dès maintenant, c'est qu'on va avoir une sorte de retour en arrière avec une dégradation du niveau de vie moyen des retraités par rapport à la moyenne du niveau de vie moyen des Français. Déjà avec la réforme Touraine. Donc avec la réforme Macron, ça va être encore pire. Donc un petit peu un goût amer, hein. C'est étrange quand même, surtout qu'on voit que les raisons comptables ne sont pas les bonnes. Donc, messieurs, dames, ce qu'on pourrait dire, c'est que les contraintes financières ne justifient pas que ça fasse un chemin obligé de mener cette réforme-là. D'accord ? Donc ça s'appelle la raison, quelle qu'elle soit, c'est un choix politique. D'accord ? Et cette réforme, elle est due à des raisons politiques, à des choix politiques, hein, tout comme le fait de décider de faire diminuer le niveau de vie moyen des retraités. Eh bien, ce que je te propose, Mathieu, c'est qu'on en parle la semaine prochaine.
Ah non, ça commence à devenir croustillant. Le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, prof Patrick. À très bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Allez, il nous reste deux petites minutes, juste le temps de vous dire au revoir, de vous souhaiter une excellente journée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle émission d'Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.